Donc, je voudrais commencer par vous, Jérôme Widvert. Vous êtes professeur de sciences économiques à Bordeaux. Vous êtes dans une équipe INSERM qui travaille sur l'économie et le management de la santé. Vous êtes aussi président du Collège des économistes de la santé. Et je voudrais que vous commenciez par nous parler d'une initiative à Bordeaux et dans la région, d'initiative territoire des soins numériques qui est pilotée par l'Agence régionale de santé. Donc, une plateforme d'innovation. Je voudrais que vous nous racontiez deux exemples qui montrent comment ces expériences permettent de penser peut-être la mécanique de soins différemment et peut-être apporter des réponses que nous n'avons pas totalement eues, je dois l'avouer, dans la première table ronde.
Très bien, je vous remercie. Je vais juste commencer par faire un petit détour avant de parler de cette expérimentation. Je voulais faire le détour de un peu la logique qui préside à cette expérimentation, mais aussi à plein d'autres, qui est un peu la... On n'entend pas ?
C'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça.
Oui, donc je voulais dire que je vais commencer par faire un petit détour pour revenir sur la doctrine qui préside à cette expérimentation et à plein d'autres, qui est partagée par, on va dire, l'ensemble des acteurs du système de santé, qui est de dire la transition épidémiologique de la population française est largement achevée, la question est celle des maladies chroniques longues, de la prise en charge sur le long terme de patients, et donc notre système est mal adapté, il a été conçu pour les soins aigus, alors qu'on a changé de type de modèle, qu'il faut changer de type de modèle, et donc il faut accompagner le patient tout au long de son parcours de soins, de l'hôpital à la ville, du médecin au spécialiste, du généraliste au spécialiste, du spécialiste à l'infirmière, et qui donc du sanitaire au médico-social. Et donc il faut essayer d'organiser au mieux ce parcours pour rendre le parcours plus efficient et plus efficace en termes de qualité de vie pour le patient, plus efficient pour le système de soins, en économisant par exemple des hospitalisations, hein, puisque c'est un peu le grand credo. Il faut diminuer les hospitalisations, réduire les durées de séjour. On a de la marge de manœuvre, et là on revient un petit peu sur le sujet de la première table ronde, il y a du grain à moudre. Donc c'est ça un peu la doxa, je crois qu'il est largement partagé par beaucoup, avec beaucoup de bémols et des interprétations différentes, mais c'est un peu le cadre. Et donc les expérimentations TSN, puisqu'il y en a une en Aquitaine, dans les Landes plus précisément, mais il y en a trois autres en France, en Ile-de-France, en Bourgogne et dans la région Rhône-Alpes, et une à l'île de la Réunion. Donc ces expérimentations, elles reposent sur le numérique. Alors, le principe, c'était un appel à projet de la DGOS, hein, qui a financé à hauteur de...
La DGOS, excusez-moi.
Oui, pardon, du ministère de la Santé, hein, d'une direction du ministère de la Santé. Donc, le montant alloué était un montant non négligeable, hein, puisque c'est 80 millions d'euros répartis sur donc 5 territoires, dont les Landes, je vais parler un peu plus précisément, parce que c'est celui-là que je connais de plus près. Et donc l'idée, c'était d'aider les ARS à faire eux-mêmes des appels à projets auprès de consortiums d'industriels. Ces consortiums d'industriels étant supposés proposer des outils numériques avec beaucoup, beaucoup d'objets différents, mais on va dire qu'il y avait un objet qu'on retrouve dans toutes les expérimentations et dans les Landes en particulier, qui était des outils numériques facilitant ou censés faciliter la coordination entre tous les professionnels de santé intervenant sur le parcours de soins, que ce soit l'hôpital, le généraliste, le spécialiste, l'infirmière, l'EHPAD. Donc, chaque ARS a fait son cahier des charges. Hein, donc, l'idée, un petit peu, en tous les cas, l'économiste pourrait le comprendre comme ça, a voulu transformer les ARS en acheteurs de soins. Alors là, ce n'est pas vraiment des acheteurs de soins, c'est des acheteurs de dispositifs permettant d'améliorer la prise en charge. Donc, chaque ARS a fait son propre cahier des charges et donc a mis en concurrence des consortiums d'industriels. Donc ça a été fait dans les 5 territoires. Il y a des consortiums d'industriels qui ont emporté les marchés et qui ont donc déployé, ou qui sont en train de déployer, ou qui auraient dû déployer, je ne vais pas revenir sur l'évaluation puisque mon équipe est en charge d'une partie de l'évaluation, donc les niveaux d'avancement sont très variés. Mais si je reviens sur l'exemple des Landes pour être un peu plus concret, puisque c'est l'objet de mon intervention, dans les Landes, ce qui a été développé, c'est un outil permettant à tous les professionnels de santé, donc qui marche à la fois sur les téléphones portables ou sur les ordinateurs, qui vise à permettre à tous les professionnels de santé d'introduire des informations. Ça se présente plutôt sous la forme d'un fil d'actualité. Chaque professionnel intervenant auprès du patient informe de ce qu'il a fait, de comment il trouve le patient, de ce qu'il faudrait faire, ainsi de suite. Donc c'est une forme de communication qu'on appelle asynchrone. C'est-à-dire, au lieu de s'appeler en direct, on communique de manière asynchrone, ce qui est censé, dans certains cas, améliorer la coordination à moindre coût pour les professionnels de, pour les professionnels de santé. Donc ça, c'est l'objet qui a été déployé, donc c'est très concret. Ça paraît très simple, ça paraît extrêmement banal. En fait, derrière, il y a des grosses questions d'interopérabilité entre tous les logiciels professionnels, par exemple les logiciels et les systèmes d'information à l'hôpital, les logiciels professionnels de cabinet. Et donc ça pose en fait les logiciels qu'on trouve dans les laboratoires biologiques. Donc tout ça, ça pose des problèmes extrêmement complexes, extrêmement lourds, qu'on connaît bien dans ce type de secteur. Et donc les développeurs industriels avaient pour objectif de faciliter cette communication entre tous les systèmes d'information, tous les logiciels métiers qu'on rencontre chez les professionnels de soins. Concrètement, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ce dont on se rend compte très vite, c'est que ces outils, ils sont assez largement inopérants s'ils ne s'accompagnent pas d'une réorganisation de l'offre de soins, mais on y reviendra tout à l'heure.
Merci. Isabelle Vitali, vous êtes directrice innovation et business excellence chez Sanofi, donc le gros laboratoire pharmaceutique français. Et vous allez nous raconter cette expérience vue non pas du côté d'un économiste ou d'une autorité locale, mais du côté d'une entreprise. Au téléphone, on m'a dit que vous faites du design thinking avec les parties prenantes. Donc vous êtes vraiment de l'autre côté, avec des professionnels du secteur, des startups, des grands groupes. Alors j'aimerais que vous nous racontiez un exemple qui se met en place, et puis peut-être éventuellement un projet pour qu'on sente concrètement ce que ça veut dire comme organisation.
Alors puisqu'on parle de santé numérique, d'abord merci de m'avoir invité. Puisqu'on parle de santé numérique, ce qui est intéressant, c'est au plan aussi économique finalement, c'est de se rendre compte que c'est une formidable opportunité pour un certain nombre d'entreprises qui finalement se côtoyaient assez peu jusque-là, de commencer à travailler ensemble pour inventer justement la santé de demain. Alors on travaille de notre côté avec des start-up, mais pas que des start-up, il y a aussi d'autres grands groupes qui ne sont pas, on va dire, traditionnellement dans la santé. Des entreprises comme Orange, comme Air Liquide, comme Dassault, aujourd'hui s'intéressent au développement de solutions en santé. Donc il nous paraît intéressant de travailler avec ce type de société pour en fait la complémentarité des expertises, travailler également, je le disais, avec des start-up, mais aussi travailler, comme vous le disiez, en mode design thinking, c'est-à-dire inventer en fait ces nouveaux usages numériques avec les usagers eux-mêmes, c'est-à-dire des associations de patients, des professionnels de santé, des experts, afin effectivement de ne pas partir de la technologie, mais plutôt partir de l'usage, et essayer de penser, en fait, on a beaucoup parlé lors de la première table ronde, au sujet de la valeur. Donc la valeur organisationnelle, on a beaucoup parlé d'organisation, mais il y a également la valeur économique, bien sûr, qui est parfois compliquée, parce qu'il va falloir inventer de nouveaux business models. Mais il y a également la valeur médicale, dont on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais qui est celle que l'on veut pouvoir démontrer au travers de ces solutions. Alors pour être très concrète, je vais vous parler d'une solution qui a été développée il y a plus de 10 ans maintenant, qui est une solution pour les patients atteints de maladies chroniques, de diabète de type 1, plus précisément, patients adultes. C'est une solution qui a été développée par Sanofi avec le CERIT, qui est en fait une structure académique, et avec une ETI qui s'appelle Voluntis. Et en fait, cette solution, c'est un logiciel thérapeutique qui va être associé à un système de télémédecine, c'est-à-dire qui va donner la possibilité aux patients d'être en contact avec le médecin à distance. Cette solution permet aux patients de prendre en charge sa maladie chronique, c'est-à-dire que grâce aux algorithmes qui sont dans la solution, le patient saura précisément quelle dose d'insuline il va devoir s'injecter. Et s'il y a un souci, l'information est transmise au professionnel de santé qui peut agir. Donc on voit bien en fait qu'on transforme pleinement en fait l'organisation même du système de soins, de la prise en charge de cette maladie chronique. On a pu démontrer au travers d'études qu'il y avait une valeur médicale avec une meilleure prise en charge de ces patients. Se pose aujourd'hui le sujet de la valeur économique. Pourquoi ? Bien parce qu'il y a des sujets sur la réglementation, quels sont les critères d'évaluation de la valeur de ce type de solution. Et puis effectivement, ça a été beaucoup le sujet tout à l'heure, c'est qui paye au final ce type de solution. Voilà. Mais elles ont de la valeur, elles ont de la valeur médicale, de la valeur organisationnelle, c'est sûr.
Yann Vido, donc, vous êtes l'autre régional de l'État, donc professeur de sciences économiques ici. Vous avez travaillé sur les soins de médecine de ville, vous travaillez maintenant sur les maisons de santé, sur la e-santé aussi. Est-ce que vous avez des exemples concrets et au-delà, commencer à évoquer les questions que posent ces nouvelles organisations ?
Alors déjà, pardon, première chose, on est sur une thématique qui répond aux besoins de santé, aux besoins de soins locaux, soit par de l'innovation, soit par de nouveaux modes de prise en charge. Donc moi, je vais plutôt me concentrer sur les nouveaux modes d'organisation des soins, et notamment, il y a des expérimentations en France sur la manière dont, en médecine de ville notamment, on peut améliorer la prise en charge du patient en faisant coopérer de manière plus importante les différents acteurs qui contribuent à la prise en charge des patients, donc que ce soit des médecins généralistes ou spécialistes, que ce soit des auxiliaires médicaux, donc des infirmières, des kinésithérapeutes, et même aussi tout ce qui relève de la sphère médico-sociale. Donc l'idée, donc il y a depuis 2007 et on a des expérimentations qui ont démarré un tout petit peu plus tôt, mais voilà, on a des choses qui se sont mises en place sur le développement de la coopération entre professionnels de santé au sens très large. Et donc, la première chose sur laquelle je voulais aller, en fait, c'était de dire que, déjà, il y a une tendance générale en France, c'est que l'exercice de la médecine se fait de plus en plus de manière regroupée. Donc, c'est une tendance lourde. Après, la vraie question, c'est est-ce que cet exercice regroupé peut pas prendre des formes différentes ? Et donc, ce qui a été mis en place avec les maisons de santé, notamment les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est l'idée de pouvoir avoir dans un même endroit des professionnels de santé qui sont de spécialités différentes et des auxiliaires médicaux pour pouvoir avoir une prise en charge complète sur un seul lieu des individus. Et donc, en fait, la question qui se pose derrière, donc le premier enjeu, c'est de dire déjà, est-ce qu'au niveau territorial, on ne peut pas régler le problème des déserts médicaux qui, bon, on a vu en première table ronde, n'en est peut-être pas forcément un, mais il y a forcément un, pardon. Mais en tout cas, il y a des thématiques où certains territoires ont une plus grande difficulté d'accès aux soins. Donc, est-ce qu'en proposant sur un même lieu différents professionnels de santé, est-ce qu'on ne contribue pas à améliorer la prise en charge ? Ça, c'est une première chose. Et puis, en termes d'accès. Et puis après, il y a la qualité de la prise en charge. Et là, en fait, la vraie question qui se pose derrière les expérimentations, c'est quel mode de coopération entre professionnels de santé on peut développer. Et donc là, en fait, cette question-là, elle amène à des enjeux sur lesquels je reviendrai un peu plus tard, mais qui sont soit de l'ordre de l'organisation, soit de l'ordre des incitations économiques, soit, troisième élément, ce qui relève des motivations des acteurs eux-mêmes. Voilà. Et donc, l'expérimentation que je voulais aborder dans un premier point, c'est une expérimentation qui a consisté, en fait, à mettre en relation des infirmières, donc, qui exerçaient en libéral, avec des médecins généralistes qui eux-mêmes exerçaient en libéral, et d'essayer de voir si, on pouvait pas initier différents niveaux de coopération entre ces deux types d'acteurs, avec, en gros, l'idée que il y aurait une association tiers au milieu qui paierait, en fait, les infirmières, qui serait donc mise à disposition gratuitement aux médecins généralistes, puisque financée par un organisme tiers. Et donc, après, il y a la question de comment est-ce que ce temps infirmier peut être utilisé par le médecin généraliste pour libérer du temps médecin, c'est-à-dire du temps de diagnostic, ou en tout cas un recentrage sur le cœur de métier du médecin, et déléguer certaines activités dont on sait, grâce à la littérature internationale, qu'elles peuvent être bien faites par des auxiliaires médicaux, et notamment par des infirmières, tout ce qui touche à l'éducation thérapeutique du patient et à la prévention. Donc on a déjà ce type d'expérimentation-là qui est menée, et les principaux résultats qu'on connaît, c'est que, contrairement à ce qu'on en attendait au départ, ça ne permet pas de faire des économies, donc la coopération ne permet pas forcément de libérer du temps médecin et donc de faire des économies à l'assurance maladie. Par contre, ce qu'on montre, c'est que la prise en charge est meilleure, et que notamment en termes de retour satisfaction patient et de prise en charge globale, les résultats sont meilleurs. Donc pas forcément des économies, mais une meilleure qualité de prise en charge.
Pierre-Louis, vous connaissez certaines de ces expérimentations. Est-ce que ça vous apparaît une piste importante ? Quels sont les points clés que vous regardez sur ce type d'expérimentation ?
Oui, pour moi, ça me paraît, quelque chose de majeur, notamment parce qu'on va avoir de moins en moins de généralistes.
En gros, en 2000, par français, il y avait 4,8 actes de généraliste, consultation, visite ou actes techniques. En 2013, il n'y en avait plus que 4,1. C'est-à-dire que ça a diminué de 15% de 2000 à 2013, et ça va continuer parce que y a de moins, la population continue à augmenter, il y a moins de généralistes, et les généralistes qui sont sur le terrain soit vieillissent et donc travaillent moins, soit ça se féminise et les femmes généralistes travaillent un peu moins que les hommes. Donc on va continuer à avoir moins de contacts avec les généralistes. Donc on va être moins soigné par les généralistes. On va être moins soigné par les généralistes. Est-ce qu'on est moins bien soigné? Là, il y a deux hypothèses. En 2000, il faisait un peu trop et n'importe quoi, et donc on a baissé de 15%, mais c'est de la rationalisation. C'est l'hypothèse optimiste, l'hypothèse pessimiste, c'est on est moins soigné et donc on est moins bien soigné. Pour le moment, moi, on n'a pas les éléments, si quelqu'un les a, mais pour trancher. Mais néanmoins, il y a un vrai problème, parce que 4,8, 4,1, après tout, pour le moment, ça semble s'être bien passé, mais ça va continuer. Et donc, on va avoir ce vrai problème. Et donc, l'idée de dégager du temps médecin pour qu'il se concentre sur ce qui est le cœur de son métier est essentiel. D'accord ? Et donc des expériences comme, je pense que vous faisiez référence à l'expérience Azalé, hein, qui permettent de mettre des infirmières en coopération, mais pas simplement en coopération du genre on se coordonne et on se parle, mais vraiment en équipe avec le médecin, c'est-à-dire je travaille dans une équipe dont le médecin est le patron. En gros, il ne faut pas avoir peur des mots. Et c'est comme ça que travaillent les généralistes dans le monde entier. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'on était complètement spécifique. En ce domaine aussi, un médecin anglais, il travaille avec des infirmières et des assistants. Un médecin suédois, pareil. Un médecin italien, pareil. Un médecin espagnol, pareil. Il n'y a que les Américains qui travaillent comme nous. Pourquoi ? Parce que aux États-Unis, comme en France, le paiement à l'acte est prédominant. Quand vous êtes payé à l'acte, vous n'avez pas du tout intérêt à avoir un salarié qui va vous prendre une partie du boulot et puis que personne ne va venir payer. Non, ça relève de l'aberration économique. Quand vous êtes à la capitation, c'est-à-dire que vous êtes payé pour le nombre de patients que vous traitez, ben vous pouvez vous dire, si je prends une infirmière avec moi, je pourrais allonger ma liste parce que l'infirmière fera certaines choses que je faisais, et assez naturellement, vous venez au travail en équipe. Donc nous, on est bloqué par le paiement à l'acte pour faire évoluer les organisations, et des expériences comme Azalé permettent de dire, bon, comme on est bloqué par le paiement à l'acte, eh bien, on va payer des infirmières pour qu'elles aillent. En gros, c'est un tiers, et à la fin, ça ne peut être, si c'est généralisé, que l'assurance maladie, pour qu'elles aillent travailler avec les médecins. Et ça, effectivement, la littérature, comme l'a dit M. Vidot, montre que ça ne fait pas des économies, mais ça permet de libérer du temps médical, parce que pour certaines activités, l'infirmière se substitue au médecin, et surtout, elle permet aussi que l'infirmière fasse des choses que le médecin ne fait jamais, c'est-à-dire passe du temps pour faire de la prévention, de l'éducation thérapeutique, de l'accompagnement. En gros, un médecin, vous allez le voir, à la sortie, il vous dit, faut vous bouger, faut manger moins gras, faut arrêter l'alcool, faut arrêter le tabac. Au revoir, monsieur. Bien évidemment, avec ça, vous repartez, et puis vous continuez comme avant. Avec une infirmière, vous pouvez avoir un dialogue sur comment vous cuisinez, ah ben vous pourriez changer telle et telle méthode, qu'est-ce qui vous empêche d'arrêter l'alcool, est-ce qu'on peut trouver telle ou telle démarche, et ainsi de suite. Et donc avoir voilà. En plus, il n'y a pas cette asymétrie qu'on a avec le médecin qui permet de parler. Voilà. Donc le sujet d'organisation est essentiel, et bien évidemment, il est lié au sujet technologique. En Angleterre, un patient diabétique qui n'a pas fait son dosage d'hémoglobine glycée et qui n'a pas été vu depuis 6 mois. Il est rappelé par le cabinet médical. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des assistants qui ont regardé dans le dossier, dans le système d'information du cabinet, quels étaient les patients qui n'étaient pas venus depuis 6 mois. Ils ont vu avec le médecin, il a dit oui, on rappelle tout ça, et ils rappellent tous ces gens-là. C'est-à-dire que c'est une médecine proactive qui sort du cabinet et qui va vers le patient. Et donc c'est que s'il y a cette organisation, qu'on tire tout le parti qu'on peut avoir des nouvelles technologies. Parce que les nouvelles technologies, pour des généralistes surbookés, c'est plus de travail. C'est-à-dire je lui envoie des alertes, mais déjà, il a des difficultés à faire ce qu'il a à faire. Donc il faut que je puisse lui envoyer des alertes et des informations, mais il faut que je dégage du temps pour que les informations pertinentes qui lui arriveront, il puisse les traiter. Et ça, on ne le fera pas si on ne change pas l'organisation et si on n'implante pas le travail en équipe en France.
Alors, vous assurez la transition vers évidemment le point suivant, quels sont les enseignements que vous tirez de ces expérimentations, quels sont les points de vigilance, quels sont les espoirs, quels sont aussi les conseils. Isabelle, vous avez déjà commencé à poser la question absolument clé de l'évaluation. Qu'est-ce que vous en tirez ?
Alors d'abord, c'est la solution dont je vous ai parlé, elle est encore en expérimentation. Donc ça, c'est quand même un sujet, parce que les deux entreprises et le CERIT, hein, qui ont investi sur une vision très innovante en fait, de la prise en charge d'une maladie chronique, ont investi depuis 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, on est encore au stade de l'expérimentation. Et on est super content d'être au stade de l'expérimentation parce qu'il y a peu de solutions qui sont au stade de l'expérimentation. Et donc se posent en fait plusieurs questions. La question effectivement d'abord des critères d'évaluation de ce type de solution, puisque finalement ils ne sont pas clairement définis par les autorités. Et parfois il y a les autorités de santé, mais parce que c'est nouveau, c'est innovant, hein, donc c'est pas négatif ce que je dis, mais il va falloir quand même qu'à un moment donné on se pose cette question-là. Pourquoi ? Parce que sinon l'industriel qui doit démontrer la valeur va choisir des critères. Si ce ne sont pas ceux qu'auraient choisi les autorités, on va avoir une problématique pour l'évaluation en fait de ces solutions. Donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième, donc c'est un sujet de réglementation finalement. Et puis se pose également effectivement le sujet de qui paye. Qui paye ? Donc, est-ce que c'est le patient ? Est-ce que les mutuelles vont prendre une partie ? Comment on rémunère l'acte ? On parlait de l'acte, mais en fait, on crée avec ces solutions numériques de nouveaux actes. Le médecin qui reçoit des informations à distance de son patient, s'il les traite, il les analyse, il va peut-être même finalement intervenir, c'est rémunéré comment ? Et en fait, pour toutes ces questions-là, en fait, on n'a pas les réponses. Et les expérimentations sont conduites avec effectivement la volonté d'y voir plus clair, mais à horizon 2019. Donc c'est encore assez loin. C'est encore assez loin. En même temps, on est satisfait d'être dans ce jeu-là. Parce que, si je peux m'exprimer ainsi, pourquoi ? Parce que d'abord, c'est important que la santé embrasse aussi ce nouveau monde de digital numérique. On voit qu'effectivement, ça apporte de la valeur médicale ou de la satisfaction pour les patients, les usagers. Donc ça, c'est important. Et puis aussi, pourquoi ? Parce que ça paraît assez incontournable. On y va. On ne peut pas se dire que la santé serait le seul domaine dans lequel le numérique ne trouverait pas sa place. Ça ne paraît pas possible. Donc se pose cette question-là. Se pose une autre question aussi. C'est des sujets comme celui de la data, de la donnée, parce que finalement, l'ensemble de ces solutions digitales ou numériques vont produire de la donnée, de santé. Donc, que fait-on de cette donnée de santé ? Alors, c'est très légiféré en France, et c'est très bien. La CNIL, aujourd'hui, il y a la GDPR aussi, qui est une loi européenne qui va protéger en fait, la donnée de santé individuelle. Mais aussi se pose la question de comment capitaliser sur cette donnée de santé pour faire avancer la recherche. Et ça, c'est aussi un autre débat, alors qui est peut-être un peu annexe, mais qui est très important, parce que finalement, la donnée, à un moment donné, c'est aussi de la valeur. Et c'est de la valeur en particulier pour la pharma, pour mieux comprendre les maladies et pour faire avancer en fait, la recherche ou gagner du temps aussi, par exemple, dans la mise en place des essais cliniques. Et donc, donner un accès plus rapide des médicaments aux patients.
Cette question de l'accès, enfin, de l'accès aux données n'est pas périphérique, elle est centrale, elle se pose sans arrêt aux économistes de la santé. Il y a des vraies différences entre les pays là-dessus, avec aussi des vraies différences dans les résultats obtenus, dans les politiques qu'on peut mener selon l'ouverture ou la fermeture de l'accès à ces données. Yann, qu'est-ce que vous tirez comme première leçon ? Ces expérimentations sont encore jeunes, mais on peut déjà tirer un certain nombre à la fois de leçons, mais aussi de questions qui sont tout à fait importantes.
En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, il y a trois questions qui se posent. Il y a le choix du bon type d'organisation et donc du niveau de coopération entre les professionnels de santé dans une structure donnée ou alors même grâce à l'aide des technologies numériques, on peut faire coopérer des individus qui sont dans des cabinets différents, dans des lieux différents. Donc, il y a la question du mode de coopération entre professionnels. Il y a aussi la question des modes de rémunération. On l'a dit il y a quelques instants, le paiement à l'acte qui est majoritaire en France puisqu'il représente 90% en fait des honoraires qui sont perçus, de la rémunération des médecins, même si on a accru la mixité des modes de rémunération en France en développant d'autres types de modes de rémunération, donc notamment en médecine de ville où on a développé ce qu'on appelle le paiement à la performance, qui consiste à fixer des indicateurs de prise en charge, de qualité, donc dans différents domaines, et qui consiste à rémunérer les médecins en fonction de l'atteinte de ces objectifs et des progrès réalisés. Et puis on a aussi développé des forfaits pour la prise en charge des patients qui souffrent d'affections longue durée, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a accru la mixité, mais se pose encore la question d'autres types de modes de rémunération qui permettraient d'améliorer la coordination entre ces différents acteurs. Et donc là, on sait qu'il y a déjà des pistes qui existent à l'étranger qui permettent d'améliorer. Donc il y a une espèce de grosse catégorie qu'on appelle les paiements à la coordination, qui ont pour objectif d'inciter les différents professionnels de santé en fait, à collaborer. Et donc notamment, l'idée de base, c'est de dire que si vous donnez un forfait pour la prise en charge d'un patient à une équipe, eh ben, cette équipe doit se débrouiller pour mettre en œuvre la meilleure prise en charge possible avec le financement accordé. Et bah, s'il reste quelque chose à la fin, ils peuvent se le partager. Donc ça pousse à prendre en charge de manière efficiente le patient et à l'inscrire dans un parcours entre professionnels de santé. Donc c'est ce qu'on a en économie, ce qu'on appelle avoir un créancier résiduel. S'il y a un créancier résiduel, celui qui, si les gains d'efficience sont partagés entre les différents acteurs, eh ben, il peut y avoir une incitation à mieux prendre en charge les patients. Donc là, on aurait à la fois le volet économique et le volet prise en charge des patients. Après, la vraie question, et on rejoint encore une fois les débats d'économie politique qui sont très présents en économie de la santé, c'est comment se fait le partage ? Voilà, entre les différents acteurs, qui va décider ? Est-ce que c'est l'assurance maladie qui fixe le partage en amont ? Ou est-ce qu'on laisse les acteurs se débrouiller par eux-mêmes ? Voilà, ça, c'est une question importante. Et puis le troisième point qu'il ne faut pas oublier au-delà des modes de rémunération, c'est quelles sont les motivations des professionnels de santé à rentrer dans ces types de dispositifs. Donc généralement, quand on a des expérimentations, si on ne sélectionne pas les gens aléatoirement, vous avez les personnes les plus motivées qui rentrent dans ces expérimentations. Donc vous avez ce qu'on appelle un biais de sélection qui peut fausser entre guillemets un petit peu l'expérimentation au départ. Bon, on a des méthodes pour contrôler ça, mais qui en tout cas interroge sur le fait que ceux qui rentrent en premier sont souvent ceux qui ont une appétence et une motivation particulière à faire du soin de manière coordonnée. Et donc on n'est pas étonné que, enfin plutôt la question qu'on peut se poser, c'est si on généralise le dispositif à l'ensemble des individus, est-ce que, comme on n'aura a priori pas les mêmes motivations, est-ce que ça va fonctionner de la même manière? Donc le but de l'expérimentation, c'est déjà d'identifier si les primo-entrants ont vraiment un comportement spécifique, est-ce qu'ils ont des caractéristiques particulières qui les prédisposaient à ce mode de prise en charge particulier et qui du coup les fait répondre de manière plus importante aux incitations qui sont données. Le vrai problème, c'est que généralement, on mélange tout ça. On a de l'incitation économique avec des modes de rémunération, on a de la motivation des individus et on a des modes d'organisation. Et donc le vrai boulot de l'économiste, c'est d'évaluer et de savoir faire la différence. Qu'est-ce qui relève du mode d'organisation ? Qu'est-ce qui relève des incitations économiques qui sont fournies ? Et qu'est-ce qui relève des motivations intrinsèques des individus ?
On voit bien que les frontières doivent bouger partout. Vous évoquiez alors, les modes de fonctionnement entre les médecins et les infirmiers, infirmières, ça suppose aussi que les frontières des uns et des autres bougent. Et c'est les frontières qui sont très solides, qui sont ancrées souvent dans des siècles d'histoire. Donc, c'est pas facile de les faire bouger en France. Jérôme, sur ces leçons.
Oui, en droite ligne avec ce qui vient d'être dit, si je prends le cas donc de l'expérimentation dans les Landes, le premier constat, c'est quand même la résistance. La résistance des professionnels de santé à utiliser ces dispositifs. D'abord, il faut qu'ils soient convaincus qu'ils sont utiles. Et donc ça, c'est pas toujours facile. Là, je parle d'un outil de coordination, pas d'un outil plus spécifique de prise en charge pour une pathologie donnée, de coordination. Il faut qu'ils soient convaincus que c'est utile. Donc ça, c'est pas facile, d'une part. Et d'autre part, on se rend compte que c'est coûteux pour eux. Il y a peut-être un gain d'efficacité, mais c'est du temps. D'abord, il faut s'adapter à l'outil. Et puis ça demande de traiter l'information, parce que parfois c'est beaucoup d'informations. Quand vous lisez un fil d'actualité d'un patient qui a été suivi sur 15 jours ou un mois, c'est du temps. Voilà, c'est du temps. Et comme on vient de le dire, pour les professionnels de santé en libéral, là c'est le cas de le dire, le temps c'est de l'argent.
C'est-à-dire quand on passe un quart d'heure à lire un fil d'actualité, on ne le passe pas à faire une consultation. Hein. Donc c'est un coût d'opportunité immédiat. Et donc ça, c'est une vraie réalité qu'on peut observer. C'est-à-dire que la coordination, ça a un coût. Même si elle est supportée par un outil numérique, ça a un coût. Ce constat a conduit rapidement, d'ailleurs, l'expérimentation a changé un peu de nature, puisqu'il y a une partie organisationnelle qui s'est greffée très rapidement via ce qu'on appelle aujourd'hui les plateformes territoriales d'appui, hein, qui sont maintenant une réalité aussi importante que le déploiement des outils numériques dans ces expérimentations. Et ces plateformes territoriales d'appui, en gros, elles ont des réalités assez différentes en fonction des territoires. Elles vont être généralisées, elles sont en train d'être généralisées sur toute la France, d'ailleurs. En gros, ce sont des infirmières coordinatrices qui répondent au téléphone pour aider les patients ou les professionnels à coordonner la prise en charge ou à guider le patient dans le parcours de soins. C'est-à-dire que c'est presque un aveu d'échec. Hein. C'est presque un aveu d'échec puisqu'on confie à des professionnels, des coordinateurs, des infirmières coordinatrices ou des infirmiers coordinateurs dans le cas présent, à assurer quelque chose qui devait être assuré spontanément via les outils numériques. Donc c'est un constat vraiment, c'est presque un cas d'école de montrer que un outil numérique ne suffira pas, ça c'est une évidence, ne suffira pas à favoriser la coordination entre professionnels de santé.
Il faut évidemment une nouvelle organisation. Donc modèle économique, il existe ou non?
Alors le modèle économique. Moi, plus j'y réfléchis, parce que j'y réfléchis depuis pas si longtemps, donc j'ai pas forcément les idées claires, mais je me souviens d'une fameuse controverse qui a été initiée par un très très grand économiste qui est Solow, qui disait dans les années 90, il y a un déploiement, une diffusion très très rapide des ordinateurs dans les entreprises, et pourtant il y a un ralentissement de l'augmentation de la productivité. Hein, donc bon, ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que je connais mal la polémique d'une part, donc ça a été énormément débattu. Mais il se trouve que, c'est peut-être une coïncidence, hein, mais que la diffusion rapide dans les années 90, fin des années 80 aux États-Unis, années 90 en Europe, des ordinateurs des entreprises, s'est traduit par un ralentissement de la productivité du travail. Donc il n'est pas impossible que les outils numériques, tels qu'ils se développent, n'aient qu'une efficacité à moyen long terme qui passe par une réorganisation du travail, par un changement d'habitude, par une acceptabilité par les professionnels de ces outils. Et ça, c'est très très difficile dans une organisation du système de santé tel qu'on le connaît en France. C'est qu'on on doit prendre des décisions centralisées de financement. Hein. Ce n'est pas des acteurs individuels, ce n'est pas des entreprises qui se décident une à une à se lancer dans l'informatique parce qu'elles y croient. C'est tout un système qui doit se lancer parce qu'il y croit. Et le modèle économique, il est difficilement trouvable parce qu'il n'est pas sûr qu'il y ait des gains à court terme. Il n'est pas sûr qu'il y ait quelque chose à partager. À court terme. Hein. C'est pas certain, ça va dépendre des outils, c'est pas forcé. Et donc, c'est extrêmement difficile de trouver un modèle économique alors qu'on n'est pas certain, et qu'on n'est pas certain qu'à court terme, il y ait des gains. Je crois qu'on pense tous qu'à moyen-long terme, il y aura des gains, évidemment, ça va de soi. Mais à court terme, c'est pas sûr qu'il y ait des gains. Donc, financer des entreprises, financer des investissements, financer de la recherche dans un système tel que le nôtre, avec un financement centralisé, c'est pas facile.
Pierre-Louis, avant de passer la parole au panel d'étudiants.
Oui, je voudrais revenir sur ces questions du modèle économique et des innovations technologiques avec une innovation qui date un peu, puisque Marcel Proust l'utilisait, ça s'appelle le téléphone. Dans d'autres pays, il y a des consultations par téléphone. C'est-à-dire que, on le sait tous, des fois il faut qu'on voit le médecin et des fois on pourrait, par téléphone, lui communiquer certaines informations, il pourrait nous renvoyer une ordonnance, le médecin gagnerait du temps et nous aussi. Donc, aux États-Unis, au Royaume-Uni, par exemple, payé à la capitation, 10% des consultations se font par téléphone. Bien évidemment, si vous voulez voir votre médecin, vous y allez. Mais si vous voulez régler votre problème rapidement, c'est un gain pour vous, c'est un gain pour lui, et tout le monde est content. Donc, il y a de la valeur pour les deux. Mais en France, si le médecin et les médecins passent du temps au téléphone avec leurs patients, parce que les patients les sollicitent, mais tout le temps qu'il passe au téléphone, le médecin français, c'est perdu. Pourquoi? Parce qu'il est payé à l'acte. Donc, pour lui, c'est plutôt une perte. Donc, il n'a pas intérêt à utiliser le téléphone. Et donc, il utilise moins le téléphone que dans les systèmes où, payé à la capitation, c'est la liste des patients qu'on prend en charge. Et si on peut les prendre en charge de manière plus efficace, on le fait. Eh bien, alors, on pourrait dire, mais payons à l'acte les consultations téléphoniques. Mais alors là, l'assurance maladie commence à trembler parce qu'elle se dit, aléa moral, je vais de même prendre 2 milliards de consultations téléphoniques et donc on ne bouge pas. Quoi. Mais on bloque, alors je prends par provocation une innovation qui n'en est plus une depuis 100 ans, hein, le téléphone, mais même on ne sait pas utiliser le téléphone. Et le mail, c'est pareil. Il y a plein de choses qui pourraient se faire par échange de mails asynchrone entre un patient chronique stabilisé qui renvoie ses principaux paramètres et puis qui reçoit une ordonnance. Franchement, moi, je vais faire mon outing, je suis hyper tendu, je vois mon généraliste tous les 6 mois, il me pèse, ça je sais faire, je pourrais lui dire combien je pèse, il prend ma tension, j'ai un tensiomètre chez moi, je pourrais lui envoyer, je pourrais même, sur un mail, le renseigner plus de variables que ce qu'il collecte lors de l'entretien, et puis il me renverrait, comme tous les 6 mois, depuis maintenant 10 ans, la même ordonnance. D'accord ? Et donc là, il perd du temps, j'en perds, la collectivité perd de l'argent, mais on paye à l'acte, et le paiement à l'acte, c'est sacré depuis 1927, et la charte de la médecine libérale, et même avant, monsieur... Enfin bon, passons, c'est une longue histoire. Mais franchement, alors, il y avait eu un progrès, en gros, de 2004... En 2016, on est passé en part de capitation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, de 0 à 13%. On se disait, il y a un progrès continu et on va y aller, enfin progressivement. Et puis la dernière négociation, celle de 2016, eh ben, on a augmenté l'acte, c'est-à-dire la consultation de 2 euros. Et comme après cette augmentation et puis quelques autres acouskis, il n'y avait plus d'argent, eh ben, on a augmenté les actes et on va faire à nouveau, on va stabiliser la part de la capitation. Donc on ne va pas vers ce mode de rémunération qui permettrait d'accueillir de nouveaux modes d'organisation ou de nouvelles technologies qui seraient gagnant-gagnant pour le médecin et pour le patient. Voilà, pardon, j'ai été trop long.
Non, c'était parfait. Le panel d'étudiants, question, je crois que le micro va arriver, puis ensuite il va fonctionner, peut-être. Il fonctionne déjà. Incroyable. La courbe d'apprentissage est rapide.
Alors bonsoir à tous, je m'appelle Sarah, je suis étudiante en ma première année d'économie appliquée. Donc, concernant le secteur de la santé, donc e-santé, comment assurez-vous comment on assure en général la confidentialité des données ? Donc, comment concilier innovation et protection ?
Voilà, la question des données revient. Isabelle, mais peut-être ensuite l'un des oui. enseignants.
Donc, bonjour Sarah, c'est une super bonne question. Alors d'abord, en France, on est très protégé quand même. Il y a la CNIL. Et puis, il y a une nouvelle loi qui s'appelle la GPDR, qui est en fait une loi européenne.
RGPD en français.
Ou RGPD, pardon.
Règlement général de protection des données.
C'est ça, c'est RGPD en français. Mais c'est européen, alors on a presque le droit de le dire en anglais. Qui va être mise en place en mai, le 25 mai de cette année, 2018, et qui vise encore plus à protéger en fait la donnée personnelle, puisque pour pouvoir utiliser de la donnée, il faudra, médicale ou pas d'ailleurs, hein, il faudra demander l'accord actif en fait de l'usager. Pour ce qui est de la donnée de santé en France, elle est très protégée. Il y a des hébergeurs de données de santé qui reçoivent des accréditations pour cela. Et en fait, on peut faire des demandes. Il y a un service, en fait, le Service national des données de santé, qui est aujourd'hui un service unique, pour lequel en fait, on peut aller demander de collecter de la donnée, mais avec, c'est très strict, en fait, c'est très régulé. C'est-à-dire qu'il faut que la finalité soit clairement définie et qu'elle réponde en général à une question médicale. Ou en tout cas, qu'elle soit clairement définie et que ce soit jamais commercial. Voilà, ça c'est très important. Voilà, donc la protection existe, donc ça c'est ce qui est mis en place. Après je pense qu'il faut être aussi très réaliste et très lucide, hein. C'est qu'il y a des entreprises comme Google par exemple, ou autre Amazon qui s'intéressent aujourd'hui au sujet de la santé, et de la donnée de santé clairement, et aujourd'hui un certain nombre d'informations que vous mettez tous là-dedans, qui ne ressemblent pas forcément à des données de santé, sont en fait des données de santé, c'est-à-dire... votre poids, c'est-à-dire l'activité que vous avez ou que vous n'avez pas, etc. Et ça, à un moment donné, ça pourrait être transformé en données de santé, et ça, vous l'aurez donné. Voilà. Donc, en fait, c'est une espèce de balance, hein. Je pense que on est plutôt très bien protégé en France. Encore une fois, c'est une bonne chose pour ce qui est de la donnée de santé qui est renseignée comme telle. Voilà.
Alors, le fait que Google ou Amazon, je ne parlais pas de Facebook, mais récolte des données et s'en servent, ça peut être utile. On sait par exemple qu'il y a des épidémies qui sont détectées maintenant par Google à partir des recherches qui sont faites dessus, avant qu'elles le soient par les réseaux d'observation sanitaire. Et c'est une information qui est un bien commun, qui peut être utile à tous.
Alors oui, pourquoi pas, mais la seule, qui pourrait l'être. La seule chose, c'est que la question de Sarah, je crois, c'était comment on se protégeait. Là, en l'occurrence, si moi, je n'ai pas décidé de donner, ou si je n'ai pas donné mon accord pour partager ma donnée, je ne suis pas certaine que j'ai envie que Google s'en serve. Et pourtant, je peux vous assurer que je pense que les données de santé, il faut pouvoir les utiliser, mais voilà, pour la bonne finalité. Donc, je crois que c'est ça, en fait. C'est la différence entre deux. Est-ce que c'est utile, la donnée ? Oui, c'est utile. Est-ce qu'on a envie de pouvoir maîtriser sa propre donnée ? Oui, certainement.
Jérôme ?
Oh non, juste pour rajouter quelque chose. Oui, la donnée, ça a de la valeur. Hein. Ça a de la valeur. Donc, les entreprises qui collectent des données vont valoriser cette valeur, si j'ose dire. Hein. C'est un point de vigilance majeur. Donc, l'information Google, c'est une très bonne information. Mais Google est une entreprise privée, internationale. Donc l'usage qui sera en a fait, ça sera peut-être un bon usage, mais peut-être pas. Ça peut être un usage privé pour les assureurs, hein. Ça peut donner des informations sur votre risque, donc ça peut à terme avoir des implications majeures, donc c'est un sujet évidemment très très important. Donc c'est vrai qu'il y a une grande protection pour tout ce qui relève de la régulation publique, mais pour ce qui est des informations que vous livrez, que nous livrons tous, là, il y a des enjeux très très importants. Donc c'est vrai qu'on est toujours un petit peu. Enfin, moi, je suis toujours un petit peu agacé en voyant la difficulté d'utiliser des données de santé pour nos études. Et c'est très très bien. Hein. C'est normal que je sois agacé. Hein.
Non, je voulais vous poser quand même la question dans le temps. C'est-à-dire que vous, en tant que chercheur de santé, en économie de santé, est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas parfois une frustration en vous disant, je pourrais avoir des résultats qui seraient utiles pour le bien commun? Si j'avais accès à des données auxquelles je n'ai pas accès.
Mais si je m'écoutais, je serais pas raisonnable. Donc c'est très très bien qu'on me contraigne. Mais c'est vrai que par moment, c'est vrai, on aimerait avoir un accès plus facile. Mais c'est très très bien qu'il y ait des gens qui ne me fassent pas confiance et qui mettent des contraintes. Ça, c'est sûr.
Autre question du panel.
Pardon, excusez-moi. Et puis il y a la question de l'éthique aussi. Hein, dont on n'en a pas trop parlé. C'est indépendamment de comment on utilise en fait les données, c'est la question de l'éthique qui est une vraie question aussi sur ces sujets-là. Et c'est bien que les personnes qui travaillent justement sur des solutions qui vont soit capter de la donnée, la collecter, soit en générer, se posent aussi ces questions de l'éthique. Je trouve que c'est bien, surtout que ça ne se fait pas forcément sur d'autres continents, donc c'est bien qu'on se la pose.
C'est bien que ces choix collectifs soient explicites et explicités. Donc, une autre question ? Du panel, ensuite on passera la parole à la salle.
Oui, Jérémy en M2 éco-santé. Moi j'ai une question sur votre sentiment, sur la dynamique qu'il y a sur le développement des différents outils numériques et les différents modes d'organisation. Est-ce que vous pensez que justement on est dans une phase où on met en place, on teste beaucoup de choses sur les nouveaux modes d'organisation ou sur les données à disposition? Est-ce que ça peut être contre-productif de mettre en place trop de choses expérimentalement parlant ou d'avoir trop de données et justement à ce que les professionnels de santé soient noyés un petit peu dans l'information et se détournent de leur cœur de métier? Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il y ait un système de régulation sur la mise en place de ces nouveaux modes d'organisation et la pénétration des nouveaux outils numériques mis à disposition à la fois pour les patients, mais aussi pour les différents professionnels de santé.
Risque de submersion par l'excès de données. Isabelle, je vous vois prendre le micro.
Oui, alors, vous parlez à un directeur de l'innovation. Donc, moi, je trouve que c'est très bien qu'il y ait plein d'innovations. En fait, c'est quelque chose qui est... Le numérique en santé, c'est encore quelque chose de neuf. Donc, c'est foisonnant. Il y a à peu près 148 start-up en France référencées par France Health Tech, des start-up en santé. Mais c'est bien parce que en fait, les aspects réglementaires sont tellement lourds, tout n'arrivera pas. Et puis c'est compliqué. Il faut trouver aussi le bon modèle économique. Aujourd'hui, les start-up en santé, c'est 30% en fait représentent 30% de ce nouveau domaine marché. Mais en fait, il n'y en a qu'une sur deux qui commence à générer du chiffre d'affaires et un tout petit chiffre d'affaires. Donc je crois que c'est bien aussi pour l'économie, c'est le potentiel
évalué de ce marché de la e-santé, il est de 2,5 à 3 milliards d'euros par an à horizon 2020. Donc je pense que c'est très sain aussi pour l'économie qui est effectivement beaucoup de solutions. Après, je ne suis pas certaine que ça perturbe beaucoup les organisations. Je n'ai pas l'impression, mais vous sauriez peut-être mieux répondre que moi. Je crois que c'est plutôt vertueux.
Yann ?
Moi, ce que je voulais rajouter là-dessus, c'est que ces données, elles sont aussi importantes. On a beaucoup parlé d'expérimentation et on en a besoin pour d'expérimentation. Donc, et les professionnels de santé, s'ils ont un retour sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ils peuvent aussi y trouver leur intérêt. Donc après, il y a quand même une phase d'apprentissage à avoir. Si la e-santé, tout ce qu'on nous promet aujourd'hui avec le développement du numérique en termes d'aide aux professionnels de santé, mais aussi remettre le patient au centre avec un contact direct, une espèce de désintermédiation qui passerait par le numérique, il y a une phase de prise en charge qui peut être coûteuse au départ, mais comme n'importe quelle innovation, donc surtout quand elle est radicale comme celle-ci, si vraiment on va jusqu'au bout des choses. Voilà. Après, je pense qu'en effet, derrière, il vaut mieux avoir trop de données que pas assez et faire le tri derrière sur ce qui nous sert et ce qui ne nous sert pas, en fait.
Pierre-Louis ?
Oui, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut tout un tas de jeunes pousses qui émergent ou est-ce qu'on peut déjà évoquer une infrastructure générale et nationale ? Et c'était l'infrastructure générale et nationale, en gros, c'était l'ambition du dossier médical personnel, partagé, ainsi de suite. Parce que, bien évidemment, une des difficultés qui peut être posée par la floraison d'expérimentation, même si, bien évidemment, il ne faut jamais refuser une expérimentation, c'est toujours créateur, c'est, à un moment donné, il faut arriver à une généralisation. Et donc, le DMP se voulait une généralisation, c'est-à-dire le lieu où, selon des protocoles communs à tous, dans un vocabulaire commun à tous, avec une organisation commune à tous, parce que si je vous transmets des informations, mais si je parle dans un autre langage, si le dossier n'est pas rangé comme vous avez l'habitude, ainsi de suite, vous le savez, l'information, elle ne vaut rien, parce que vous y perdez. Si, voilà. Donc, et pour le moment, cette infrastructure, il y a 1 million de dossiers médicaux ouverts, il doit y avoir la moitié qui sont alimentés. Ça peine, ça doit être relancé, mais voilà, donc il y a aussi cette dialectique entre la construction d'une infrastructure générale, sur laquelle pourraient se greffer d'ailleurs beaucoup des expérimentations pour verser les informations qu'elles ont obtenues, et puis cette floraison d'initiatives. C'est ça qu'il faudra arriver à conjuguer, mais la difficulté à mettre en place l'infrastructure nationale montre que du côté des professionnels, même si tous vous disent qu'ils veulent plein d'informations, ainsi de suite, quand il faut qu'ils alimentent, eh bien, on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, plutôt des difficultés et des réticences.
Deux dernières questions de la salle cette fois-ci. Micro, on va les prendre dans la foulée. Voilà.
Bonjour, je suis Axel Menu, je travaille à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et je ne suis pas économiste. Moi, j'aurais une question par rapport aux patients et par rapport à ce qui a été fait de manière très pratique dans les expérimentations présentées pour faire adhérer les patients aux innovations organisationnelles, faire adhérer le patient au fait d'être vu par une infirmière plutôt que par son médecin traitant, par exemple, et comment faire adhérer de manière massive les patients à la plateforme TSN. Comment leur faire accepter qu'il y ait un partage d'informations de santé les concernant entre professionnels qu'ils ne connaissent pas tous individuellement. Voilà, ce retour d'expérience m'intéresserait.
Une autre question. Là-haut, tout là-haut, monsieur, tout là-haut. Hop. Non, je crois qu'il faut le faire circuler. Bon, allons-y comme ça. Oui, la méthode participative fonctionne aussi. Voilà, le dernier kilomètre.
Bon, c'est mieux comme ça. Oui, je voulais vous demander, en fait, vous avez beaucoup parlé précédemment de travailler en collaboration, en fait, entre professionnels de la santé. Par exemple, travailler dans des centres entre médecins et infirmiers. Mais au final, est-ce que tout ça n'est pas voué à l'échec tant qu'il y aura le même système de tarification ? Est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'un changement du mode de rémunération des médecins ne serait pas envisageable ? C'est comme, après tout, c'est bien pratiqué dans d'autres pays.
Sur cette dernière question, il y a Yann ou Jérôme, vous en avez beaucoup parlé tous les deux. Allez.
Encore une fois, oui, c'est clair que le paiement à l'acte est un obstacle à la coordination. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, clairement, la réforme du mode de rémunération peut accompagner la mise en place de ces nouveaux modes d'organisation et de cette coopération. Après, comme je l'ai dit aussi, il y a d'autres ressorts que simplement les incitations financières qui peuvent jouer. Et en cela, le paiement à l'acte ne sera pas plus un frein que d'autres modes de rémunération. Je veux dire, tout ne se fait pas avec de l'argent non plus. Après, c'est sûr que rémunérer spécifiquement la coordination a de grandes chances de pouvoir favoriser la mise en place de cette coopération entre infirmières et médecins. Moi, je pense que, en effet, ça passe par un changement, pas forcément par la suppression du paiement à l'acte. En plus, on a vu tout à l'heure que pour des raisons historiques, on n'arrivera pas à faire ça en France, puisque les médecins libéraux ne sont pas favorables à cette réforme-là. Mais petit à petit, on grignote mine de rien en mettant en place d'autres modes de rémunération. Donc le vrai problème, c'est qu'on ajoute de la complexité avec différents types de rémunération. On va pas aboutir à des usines à gaz où le médecin va devoir composer avec du forfait, de la performance, de la coordination. Donc on découpe en fait l'activité médicale. Bon, le paiement à la coordination, c'est pas découpé. Au contraire, c'est l'idée de faire travailler ensemble. Mais en tout cas, on ne peut pas transformer non plus la médecine en une somme d'indicateurs ou une somme d'actes et puis rémunérer tantôt ceci, tantôt cela. Je pense que c'est plus compliqué. Donc il vaut mieux aller vers des modes de rémunération qui vont sur de la prise en charge globale. Et c'est plutôt ces modes de rémunération-là qui seront compatibles. Après, le dernier enjeu très vite là-dessus, c'est est-ce que les professionnels s'y retrouvent ? Voilà. Et en gros, les aspirations ne sont pas les mêmes. Les auxiliaires médicaux aspirent à des montées en compétences et à ne plus être des subordonnés ni dépendants des prescriptions médicales des médecins généralistes. Et donc, tant que la coordination passera par un système très hiérarchique où c'est le médecin qui décide ce qu'il délègue ou pas, sans qu'il y ait une espèce de coopération qui s'instaure réelle, pas juste sur le papier, là aussi, ça risque de bloquer. Et malheureusement, l'ordre des infirmiers est peut-être moins efficace que l'ordre des médecins pour essayer d'initier cette montée en compétences qui existe déjà. Je veux dire, au Royaume-Uni, on a déjà ce modèle-là de l'infirmière qui a des compétences avancées. Voilà.
Jérôme, sur le patient.
Oui, sur la première question. Ben, très, très concrètement, d'abord, la plateforme, ce n'est pas nécessairement le patient qui la sollicite, ça peut être l'infirmier, l'infirmière, le généraliste. Hein, donc c'est essentiellement d'ailleurs plutôt les professionnels de santé ou la famille qui informe ou qui sollicite la plateforme pour une coordination, hein, pour une prise en charge mieux adaptée. Et quand c'est le patient, eh bien, il y a une demande de consentement. Hein. Il faut qu'il signe. De toute façon, il y a un consentement à pouvoir introduire des données sur sa santé dans le système d'information. Hein. Donc il y a un consentement, il peut refuser. Et dans ce cas-là, évidemment, s'il refuse que des informations soient rentrées dans le système d'information, elles ne sont pas rentrées, évidemment. Mais je voulais dire quelque chose de plus sur le patient. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi dans la doctrine d'aujourd'hui l'espoir, l'idée que le patient chronique se prennent en charge lui-même. C'est-à-dire, c'est aussi la e-santé, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi l'accès à une information riche sur les possibilités, sur les bonnes pratiques, sur les bons usages. Et donc, il y a espoir aussi que la demande du patient permette de mieux organiser le parcours de soins, parce que le patient deviendra, c'est le fameux patient expert dont on parle beaucoup. Donc, on n'en a pas parlé, on a plutôt parlé côté professionnel de santé, mais il y a aussi cet espoir-là, du patient expert qui saura lui-même trouver le bon parcours.
Merci. Nous venons au terme de ce débat. Vous êtes peut-être des malades qui s'ignorent, mais en tout cas, vous avez été très, très patient. Donc, pas de solution à court terme sur la réforme de l'assurance santé. Le numérique, ça va être compliqué. Je pense que vous avez intérêt à rester en bonne santé et à faire un peu d'exercice en rapprochant vos mains comme ça pour remercier le panel. Merci à tous.
Juste un petit mot pour remercier toute l'équipe et en particulier Thomas Barnet et Yann Bideau d'avoir très bien organisé ici cette nocturne. A priori, tout ça devrait améliorer votre bien-être. Hein. Il y a une étude du CEPREMAP qui nous dit d'ailleurs que c'est une courbe en U. Donc, on est avec un maximum de bien-être à votre âge jeune et au mien très senior. Et entre les deux, vers 40 ans, la courbe de bien-être est plutôt assez basse. Donc, si vous voulez continuer à en profiter, le 24 mai, on a une matinale de l'économie à l'Assemblée nationale. Fiscalité, démocratie, avec les députés, ça peut être assez amusant. Le dialogue économiste-député. Et puis, si vraiment vous n'êtes pas trop épuisé, 6, 7, 8 novembre à Lyon, on vous fera des journées de l'économie avec, j'espère, un parcours étudiant spécialement pour vous. Merci. Bonsoir.